Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge ensemble dans les informations et les idées fortes d'une source partagée avec nous, le numéro 98 de l'OJI Week. Ça couvre la semaine du 21 au 25 septembre 2025.
Bonjour.
Notre objectif, comme d'habitude, extraire les pépites, les faits un peu surprenants et saisir ce qui est vraiment important dans ce magazine. On va aborder des thèmes variés, la stratégie numérique marocaine, des enjeux sociaux importants, le positionnement du Maroc à l'international, les avancées techno et même un petit tour du côté santé et bien-être. Alors, on déballe tout ça ?
Oui, tout à fait. C'est un numéro assez dense qui reflète bien une actualité chargée au Maroc comme ailleurs. Ce qui ressort d'emblée, je trouve, c'est cette espèce de tension entre une volonté d'avancer vite sur la technologie et puis des défis sociaux qui, eux, restent très concrets, très quotidiens. On va regarder ça de plus près.
Commençons par le numérique alors. La source, elle met en avant un accord assez clé signé avec Mistral AI. C'est la start-up française d'IA générative qui monte. C'est la ministre déléguée Amal El Fala et le cofondateur Arthur Mensch qui ont paraphé ça à Rabat. L'objectif affiché, c'est de bâtir un écosystème IA marocain, en visant l'innovation, bien sûr, mais aussi la souveraineté et la responsabilité.
Et ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est ce choix, un choix stratégique en fait. Se tourner vers une solution européenne, comme Mistral AI, plutôt que, disons, les géants américains habituels, OpenAI, Google, Microsoft. La source parle de souveraineté numérique, c'est le terme employé. Mais elle soulève aussi la question d'une possible dépendance renouvelée, envers l'Europe cette fois. C'est un pari, quelque part.
Un pari. Pourquoi un pari, spécifiquement ?
Parce que choisir un acteur européen, c'est peut-être une voie, disons moins immédiate à court terme, mais qui offre potentiellement plus de contrôle, plus d'alignement. Le vrai enjeu, et la source le dit bien, c'est pas seulement de signer un papier, c'est de s'assurer que l'expertise ne reste pas juste importée. Il faut impérativement développer les compétences sur place, former les gens, les ingénieurs, les data scientists marocains, soutenir les startups d'ici, faire participer les universités. Sinon, cette idée de co-construction, ça risque de rester un peu lettre morte, quoi.
D'accord, je vois. Le partenariat, c'est juste le début du chemin. Et toujours dans cette idée de modernisation, il y a la 5G qui arrive. La source explique que ça va se faire progressivement. D'abord dans les 6 villes hôtes de la Cannes 2025, donc Rabat, Casa, Tanger, Fès, Marrakech et Agadir. Et ensuite, l'objectif, c'est d'étendre ça à 85% du pays d'ici 2030 via le plan digital Morocco. Et apparemment, beaucoup de monde a déjà un smartphone compatible. Presque 60%, c'est ça.
Oui, c'est ça. Et ce chiffre, 60%, c'est vraiment un atout. Un atout majeur même. Parce que contrairement à d'autres lancements où le réseau arrive avant que les gens soient équipés, là, il y a déjà une base d'utilisateurs prête, potentiellement. Ça pourrait, ça devrait même accélérer l'adoption. Et l'arrivée concrète de tout ce qu'on promet avec la 5G, l'industrie 4.0, les villes intelligentes, de nouveaux services pour le grand public. Le Maroc regarde aussi ce que font ses voisins, la Tunisie, l'Égypte, qui ont démarré la 5G un peu avant, courant 2025.
Mais toute cette digitalisation, ça amène forcément de nouveaux risques, j'imagine.
Ah bah oui, exactement. Et ça nous conduit tout droit à un autre point dans la source. La CNSS, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, elle investit 4,4 millions de dirhams pour renforcer sa cybersécurité. C'est logique. Quand on gère des données aussi sensibles, celles de millions d'assurés, c'est plus qu'une simple précaution. C'est absolument vital de se blinder contre les cyberattaques. Surtout qu'elles sont de plus en plus sophistiquées.
Passons maintenant du numérique aux réalités sociales. Et là, le contraste est parfois saisissant. La sécurité routière, par exemple. Les chiffres donnés pour une seule semaine en septembre, en ville, ils sont effroyables. 29 morts, presque 3000 blessés. Et les causes, ce sont toujours les mêmes qui reviennent. L'inattention, la vitesse, l'alcool, le non-respect des priorités, des feux. La police met des amendes, plus de 43 000 contraventions cette semaine-là. Mais le problème de fond demeure. C'est là qu'on se demande, qu'est-ce qui coince vraiment ?
C'est la question à un million, oui. Le coût humain est terrible, et puis il y a le coût pour la santé publique derrière. La source illustre bien cette difficulté à changer les comportements, durablement. La répression, elle existe, mais visiblement, elle ne suffit pas. Il manque peut-être encore ce, ce déclic collectif, cette prise de conscience pour plus de discipline, plus de responsabilité au volant. C'est complexe.
Autre sujet social préoccupant, la drogue, l'enbouffa, la cocaïne du pauvre, comme on l'appelle. Les chiffres montrent une hausse des affaires, des saisies aussi, près de 10 kg en 2024. Et on parle de 15% des jeunes en milieu urbain qui seraient touchés, c'est énorme.
Oui, c'est un phénomène très inquiétant, d'abord parce que ça touche une jeunesse qui peut être vulnérable, et puis c'est une drogue synthétique, produite localement donc, très accessible. Ça pose un vrai défi de santé publique et de cohésion sociale aussi, forcément.
Heureusement, la source ne contient pas que des nouvelles sombres. Il y a aussi des initiatives positives qui sont mentionnées. Par exemple, 1 milliard de dirhams pour moderniser les marchés ruraux. Rénovation, stockage, assainissement. Et puis un prêt de 10 millions d'euros de la BERD, qui passe par la fondation Arawage pour aider les jeunes de moins de 35 ans, surtout pour créer leur entreprise avec un focus sur les régions touchées par le séisme du Haouz.
Ces deux initiatives sont effectivement intéressantes. Elles visent à corriger certains déséquilibres. Moderniser les souks hebdomadaires, les marchés ruraux, c'est une tentative de réduire un peu la fracture ville-campagne, de redonner du souffle à l'économie locale. Ces marchés, c'est souvent plus que de simples lieux de vente, ce sont des centres de vie sociale importants. Et puis, soutenir l'entrepreneuriat des jeunes, surtout après un drame comme le séisme, c'est clairement un investissement dans l'avenir, ça donne des perspectives.
Mais les difficultés, elles restent bien présentes dans des secteurs vitaux comme la santé. La source parle de manifestations à Agadir. Les gens dénoncent le manque de moyens, de personnel. Ils parlent même de décès qui auraient pu être évités. Il y a aussi cette anecdote, assez parlante, d'un citoyen à Driouche qui interpelle directement le ministre de la Santé sur l'état de l'hôpital local.
De l'accès à des soins de qualité pour tous, partout sur le territoire. Ça laisse penser qu'il y a peut-être des problèmes plus systémiques, plus profonds dans le système de santé. Et ça demande des réponses rapides et efficaces.
Et pour finir sur ce volet social, un chiffre qui donne à réfléchir. Il vient d'une étude du Policy Center for the New South. Chaque année, près de 60 000 étudiants marocains partent étudier à l'étranger.
Ah oui, le fameux phénomène de la fuite des cerveaux. 60 000, c'est considérable. L'étude citée, elle recommande non seulement de mieux accompagner les jeunes dans leur orientation en Maroc, mais aussi, et c'est important, de construire des ponts pour faciliter le retour de ces talents, une fois qu'ils sont diplômés. Ça peut passer par des réseaux d'anciens, des plateformes dédiées. C'est un enjeu absolument majeur pour le développement du pays, bien sûr.
Changeons d'échelle. Parlons de la place du Maroc dans le monde. D'après Eurostat, plus de 188 000 Marocains ont eu un titre de séjour dans l'UE en 2024. Ce qui place le Maroc en troisième position des nationalités. Les raisons principales, le travail à 31,9% et la famille, 27%, surtout vers l'Espagne et la France.
Ces chiffres, ils disent plusieurs choses. D'abord, que l'Europe reste attractive pour beaucoup de Marocains. Ensuite, que les voies légales de migration, pour le travail ou le regroupement familial, elles fonctionnent. Et ça confirme aussi le rôle central, on peut dire, du Maroc dans les dynamiques migratoires entre l'Europe et l'Afrique du Nord.
Et sur le continent africain, le Maroc est aussi très présent. Le secrétaire d'État Omar Ejira était au Caire pour des réunions sur la ZESCF, la zone de libre-échange continentale africaine. L'objectif, c'est de simplifier le commerce intra-africain, notamment avec l'Égypte. Et il y a un soutien financier d'Afriximbank. Un forum ZESCF est même prévu à Marrakech.
Oui, ça s'inscrit parfaitement dans la stratégie marocaine de longue date. Se positionner comme un hub, une plaque tournante économique en Afrique, et renforcer la coopération sud-sud. La ZESCF est vue comme un levier clé pour le développement du continent. Et le Maroc, clairement, veut y jouer un rôle de premier plan, un rôle moteur.
Autre domaine, la défense. La source mentionne un intérêt du Maroc pour acheter des sous-marins Scorpen, de fabrication française.
Alors ça, si ça se confirme, ce serait une étape très significative pour la marine royale. Acquérir des sous-marins, ça renforcerait considérablement la capacité du Maroc à surveiller et protéger ses côtes, qui sont longues, en Atlantique et en Méditerranée. C'est une question de souveraineté, bien sûr, mais aussi d'adaptation aux enjeux de sécurité régionaux, qui sont complexes. C'est une décision stratégique, lourde.
Et on termine ce tour d'horizon international avec deux nominations qui font plaisir. Khadija Bendam, élue présidente du Conseil international des sociétés nucléaires, une première pour une femme, et l'astrophysicienne Meryem El Yajouri, qui intègre le prestigieux Space Telescope Science Institute de la NASA.
Ah oui, Excellente nouvelle, ça. Au-delà de la reconnaissance personnelle de leur expertise qui est évidente, c'est un signal très positif sur la place des femmes marocaines dans les sciences au plus haut niveau et sur la reconnaissance internationale des compétences marocaines en général. C'est important.
Outas maintenant aux tensions mondiales et à quelques tendances technologiques. Sur le dossier de Gaza, la source rapporte, et on le relaie ici avec neutralité, les conclusions d'une commission d'enquête de l'ONU. Cette commission, présidée par Navi Pillay, accuse Israël de génocide en se basant sur la présence de 4 des 5 actes définis par la Convention de 48. Israël a rejeté ces conclusions. Parallèlement, on note des propos très controversés du ministre israélien Smotrich, qualifiant Gaza de future mine d'or immobilière.
Oui, il faut bien saisir la portée de ces informations, sans prendre parti, bien sûr. L'usage du terme « génocide » par une instance de l'ONU, même si elle n'a pas de pouvoir judiciaire direct, a un quoi politique et symbolique très fort. Quant aux déclarations de M. Smotrich, elles ont choqué parce qu'elles semblent faire totalement abstraction du contexte humanitaire dramatique sur place. Notre rôle ici, c'est juste de rapporter ces éléments tels que présents dans la source.
D'autres points internationaux sont évoqués rapidement. Un échange de prisonniers entre Paris et Téhéran, la visite d'un ministre syrien à Washington, ce n'était pas arrivé depuis 25 ans pour discuter des sanctions, et puis les déclarations de Donald Trump. Il lie de nouvelles sanctions contre la Russie à l'arrêt des achats de pétrole russe par l'OTAN, tout en minimisant l'incident des drones russes en Pologne.
Oui, c'est un petit kaléidoscope qui montre bien à quel point la scène internationale est fluide, complexe en ce moment. Des tensions ici, des négociations là, des déclarations parfois déconcertantes. C'est le paysage actuel, quoi.
Côté tech du quotidien, la source signale l'arrivée du doublage multilingue par IA sur YouTube. Ça, c'est une opportunité pour les créateurs marocains, non ? Pour toucher un public plus large ?
Attention, ou encore cette étude d'OpenAI qui révèle que ChatGPT est surtout utilisé pour des besoins personnels, en fait. Tout ça, ça va dans le même sens. Une intégration de plus en plus poussée de l'IA pour personnaliser les services, pour nous donner accès à plus de choses, plus facilement.
On termine par un sujet qui nous touche de près, notre santé, notre bien-être. La source a un passage vraiment passionnant sur le nerf vague. On a l'impression que c'est une sorte de chef d'orchestre caché dans notre corps.
Et c'est une excellente image, voyant. Le nerf vague, c'est vraiment une pièce maîtresse. C'est la connexion principale entre le cerveau et la plupart de nos organes vitaux, cœur, poumons, système digestif. C'est lui le pilier de notre système nerveux, dit calmant, le parasympathique. Celui qui nous aide à récupérer, à digérer, à ralentir le rythme après un coup de stress. Il y a un lien direct, physique, entre nos émotions et le fonctionnement de nos organes. Et ce nerf, c'est l'autoroute de communication principale. Avoir un nerf vague qui fonctionne bien, c'est fondamental pour notre équilibre.
Et on peut l'aider un peu, ce nerf vague, faire quelque chose pour lui ?
Lui. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La source cite des techniques très simples, très accessibles. La respiration lente et profonde, par exemple, surtout en insistant sur l'expiration. La méditation. Même chanter, fredonner, ça peut le stimuler. La médecine s'y intéresse de plus en plus. On l'utilise déjà pour certaines formes d'épilepsie. Il y a des pistes pour la fatigue chronique post-Covid. Certains chercheurs pensent même qu'un nerf vague bien tonique est lié à une meilleure espérance de vie.
C'est fascinant. Et pour finir, quelques brèves santé un peu étonnantes. Une colle pour les os, bono tout, inspirée des huîtres, qui réparerait une fracture en 3 minutes. Une étude qui dit que prendre son petit déj tard, ça serait mauvais pour la santé des seniors. Et une autre qui montre que certains médicaments, pas que les antibiotiques, peuvent perturber notre microbiote intestinal durablement, même après qu'on ait arrêté de les prendre.
Oui, des petites infos, mais qui ouvrent de grandes questions. La colle osseuse, si ça marche vraiment, ce serait incroyable. L'étude sur le petit déjeuner, ça nous rappelle l'importance de nos rythmes de vie. Et celle sur le microbiote, ça souligne à quel point notre corps est un écosystème complexe et sensible à ce qu'on lui donne.
Bon, alors, si on essaye de prendre un peu de hauteur après avoir parcouru tout ça dans ce numéro de l'EDG E-Week, on a vu un Maroc qui mise gros sur le numérique, l'IA, la 5G, mais avec ce défi de la souveraineté et surtout des compétences locales à développer. On a vu des problèmes sociaux très lourds qui perdurent, la sécurité routière, l'accès aux soins, à côté d'initiatives encourageantes pour le développement local, l'aide aux jeunes. On a vu un Maroc très actif à l'international, qui navigue entre les migrations, l'économie africaine, les enjeux de défense. Et on a même exploré ce rôle incroyable de notre nerf vague. Au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ?
Je crois que le mot qui revient souvent, c'est cette tension. Effectivement, tension entre la promesse technologique, la vitesse, l'image de modernité et la réalité de problèmes sociaux bien ancrés.
qui demandent du temps, des moyens énormes, des changements de mentalité aussi. Le Maroc semble un peu pris dans ce grand écart. Il essaie d'utiliser l'innovation comme un moteur, tout en devant gérer les besoins essentiels, parfois très urgents, de la population.
Et ça nous amène à une question, peut-être pour la suite, une question qui reste en suspens après cette lecture. Face à cette accélération technologique, l'IA, la 5G, et face à la persistance de ces gros défis, l'insécurité routière, l'accès inégal à la santé, comment le Maroc peut-il vraiment s'assurer que l'innovation ne sert pas juste la croissance économique ou l'image? Comment faire pour qu'elle améliore vraiment, concrètement, la vie de tous les jours, la sécurité, le bien-être de tous les citoyens? Comment on passe de la promesse à la preuve sur le terrain? C'est sur cette interrogation qu'on va clore notre analyse pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration.